la terre doit appartenir à tous ou à personne.
Si vous avez comme moi trituré les boutons de votre transistor, vous avez peut-être pu entendre
Principe Actif.
Et si les autorités savaient où se trouve l'émetteur de cette radio clandestine, elles auraient pu interrompre cette émission.
Principe Actif à Évreux, 102.4, dans le sud de l'Eure, 95.9.
Still at war anymore.
7h en temps universel, 9h ici à Paris. Merci d'écouter RFI.
RFI Matin.
L'actualité internationale, c'est avec vous Simon Bourtembourg. Et dans ce journal, on va tenter de comprendre l'origine de la nouvelle épidémie d'Ebola qui frappe la RDC et l'Ouganda.
La souche Bundibugyo n'avait pas été recensée en RDC depuis 2012. Cette souche d'Ebola, pour laquelle il n'existe pas de vaccin, a été retrouvée donc dans plusieurs échantillons analysés par les équipes de l'Institut National de Recherche Biomédicale de Kinshasa. 80 décès ont été enregistrés en RDC où le virus pourrait avoir circulé dès le mois d'avril. Le Liban et Israël s'accordent sur une prolongation de la trêve pour 45 jours supplémentaires. Nous le verrons, les autorités libanaises sont décidées à poursuivre le processus de négociation malgré l'intensification des opérations militaires israéliennes et l'opposition ferme du Hezbollah à ses pourparlers. Au Grand Dam de Varsovie, les États-Unis annulent le déploiement de 4 000 militaires en Pologne. À la fois voisin de l'Ukraine et de la Biélorussie, le pays compte pourtant sur ses relations privilégiées avec Washington pour assurer sa défense. Et puis, on parlera également en fin d'édition du Festival de Cannes et du cinéma palestinien toujours plus présent sur la croisette.
C'est donc une souche d'Ebola qui n'avait pas été recensée en RDC depuis 2012.
Et pour laquelle il n'existe pas de vaccin. Son nom, Bundibugyo, l'une des souches qui est à l'origine donc de l'épidémie d'Ebola en cours en RDC, plus précisément au nord-est du pays, en Ituri. Le ministère congolais de la Santé évoque déjà 246 cas suspects. 80 décès potentiels liés à la maladie ont été enregistrés. Et selon un rapport des autorités provinciales de la santé, le virus pourrait avoir circulé dès le mois d'avril en RDC. Les précisions de Paulina Zidi.
Selon ce rapport, les premiers décès suspects pourraient remonter au mois d'avril, mais ce n'est que le 5 mai que des messages d'alerte sur les réseaux sociaux attirent l'attention sur une augmentation de la mortalité dans la zone de santé de Mongualou en raison d'une fièvre hémorragique. Une rumeur évoque d'abord une cause mystique. Un pasteur qui aurait brûlé des fétiches serait mort peu après. Des autorités médicales se penchent sur cette question et découvrent un tableau clinique récurrent. Fièvre, maux de tête, vomissements, fatigue intense. Ils découvrent aussi que 4 personnels de santé sont décédés en 4 jours. Et le rapport évoque enfin le cas d'une famille qui a perdu 15 de ses membres après un rassemblement à Mongualou. 5 des victimes sont mortes après leur retour à Bunia. Pendant tout ce temps, des prélèvements ont bien été faits. Ils sont revenus négatifs au Covid, au Mpox et même au virus Ebola. Mais les tests n'ont dans un premier temps porté que sur la souche dite Zaïre, celle qui circule le plus souvent dans le pays. Or, l'on sait depuis ce vendredi que c'est le variant Bundibugyo qui est à l'origine de cette nouvelle épidémie. Un virus qui n'avait pas été détecté depuis 2012. Paulina Zidi, Kinshasa, RFI.
Le ministère de la Santé ougandais, cette fois, a par ailleurs de son côté confirmé également un décès à cause de ce virus Ebola. Un homme qui s'était rendu en République démocratique du Congo est donc mort. Le groupe État islamique frappé au cœur au Nigeria, Abu Bilal Al-Minouki, un des cadres de l'organisation, a été tué. C'est en tout cas ce qu'affirme sur son réseau social le président américain Donald Trump, qui parle d'une opération conjointe entre forces nigérianes et américaines.
Les États-Unis ou le Liban et Israël se sont accordés sur la prolongation du cessez-le-feu, 45 jours de prolongation malgré de nouvelles frappes.
La trêve en vigueur depuis le 17 avril dernier entre l'armée israélienne et le Liban devait en principe s'achever demain, mais c'est à nouveau à Washington et donc au terme de deux jours de pourparlers que des représentants libanais et israéliens ont acté la reconduction du cessez-le-feu. Beyrouth demande désormais un mécanisme indépendant et des garanties américaines pour éviter les échecs des accords précédents. De son côté, Washington annonce une réunion au Pentagone le 29 mai prochain entre des délégations militaires libanaises et israéliennes. Paul Ralifé, vous êtes le correspondant de RFI au Liban. Les autorités libanaises semblent décider à poursuivre le processus de négociation, et ce, malgré l'intensification des opérations militaires dans le sud Liban et l'opposition toujours ferme du Hezbollah. C'est pour parler.
Oui, Simon, le Hezbollah dénonce désormais un complot dirigé contre lui et accuse presque ouvertement les dirigeants libanais de trahison. Le vice-président du conseil politique du parti chiite, Mahmoud Komati, a reproché au président Joseph Aoun d'avoir abandonné ses engagements envers le Hezbollah. Il a déclaré que les négociations s'inscrivent dans un contexte de complot contre la patrie, sa souveraineté et sa résistance. Selon Mahmoud Komati, le chef de l'État n'a pas respecté sa promesse de ne pas participer à des négociations directes avec Israël avant un cessez-le-feu complet et global. La réponse ferme et sèche est venue de la bouche du Premier ministre. Nawaf Salam a appelé le Hezbollah à cesser ses aventures absurdes au service d'intérêts étrangers, en allusion à l'Iran. Assez de surenchères et d'accusations de trahison, cela ne nous impressionnera pas et ne nous intimidera jamais, a martelé le chef du gouvernement. Nawaf Salam a demandé au Hezbollah de ne plus insulter l'intelligence des Libanais, en qualifiant de victoire les morts, les destructions, les déplacements et tragédies. Cette prise de bec montre à quel point les positions vis-à-vis des négociations sont polarisées, ce qui n'augure rien de bon pour la suite des événements.
Paul Ralifé en direct de Beyrouth. Et dans ce contexte, la participation d'Israël et le concours de l'Eurovision pousse de nombreux pays à boycotter la compétition. La finale doit avoir lieu ce soir. Parmi les pays qui boycottent, on retrouve notamment l'Islande, l'Irlande, les Pays-Bas, la Slovénie et l'Espagne. Le président ukrainien l'assure dans un message publié sur Telegram. Volodymyr Zelensky accuse Moscou de vouloir impliquer davantage la Biélorussie dans sa guerre en Ukraine. La Russie préparerait des plans d'attaque contre le nord de l'Ukraine ou un pays de l'OTAN à partir du territoire biélorusse.
Autre voisin de la Biélorussie et de l'Ukraine, Simon, la Pologne regrette que Washington ne déploie finalement pas 4000 militaires dans son pays.
Et ce, après avoir déclaré le retrait de 5000 soldats d'Allemagne au début du mois. Le Pentagone vient donc d'annoncer l'annulation cette fois d'un déploiement sur le territoire polonais. De quoi semer le trouble à Varsovie. Adrien Sarlat.
4000 soldats américains de moins que prévu, les déclarations du général Christopher Leniw sonnent comme un coup dur pour la Pologne. À la fois voisine de l'Ukraine, de la Biélorussie et de l'enclave russe de Kaliningrad, le pays compte historiquement beaucoup sur sa relation privilégiée avec les États-Unis pour assurer sa défense. Mais pour la ministre des politiques régionales, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, le pays doit faire face à une nouvelle réalité.
La présence de soldats américains en Pologne est dans notre intérêt en tant qu'alliés des États-Unis. Mais les décisions qui sont prises outre-Atlantique sont ce qu'elles sont. Et nous nous devons d'être réalistes sur la façon dont agit le président Trump.
De son côté, le Premier ministre Donald Tusk se veut rassurant.
J'ai la confirmation que ces décisions sont d'ordre logistique et qu'elles n'auront pas d'impact sur les capacités de dissuasion polonaise et la sécurité des relations américano-polonaises.
La thèse du gouvernement voudrait que les 5000 soldats américains retirés d'Allemagne début mai soient relocalisés en Pologne, rendant ainsi le déploiement de 4000 soldats supplémentaires inutile.
La réorganisation menée par le Pentagone peut avoir un impact sur le type d'armée déployée ou sa répartition géographique en Europe. Mais ces changements ne concernent pas une réduction du contingent américain en Pologne.
Le Pentagone, de son côté, a refusé de commenter ou d'expliquer sa décision. Adrien Sarlat, Varsovie, RFI.
Il y a tout juste 60 ans, la révolution culturelle débutait en Chine. Un épisode sanglant de l'histoire du Parti communiste chinois, lancé le 16 mai 1966. La révolution culturelle a fait entre 1,5 et 2 millions de morts, selon les historiens. Nicolas Roca a pu recueillir le témoignage d'un témoin de cette révolution culturelle.
Liu Shaoqi, hier, était chef d'État. Il est devenu ennemi du peuple.
Le président ennemi du peuple, le concept marque Tsai Chongguo, 11 ans, quand la révolution culturelle éclate dans sa ville de Wuhan.
Il y avait la manifestation, il y a le conflit, il y a une sorte de guerre civile, quoi, à Wuhan.
Une image reste gravée dans sa mémoire.
Une trentaine d'hommes étaient tués, le cadavre exposé à côté de chez moi.
Livre brûlé, professeur lynché, séance d'autocritique. Dans la décennie qui précède sa mort, Mao a poussé la jeunesse à se soulever contre la bureaucratie avec un objectif.
Éliminer tout cet individualisme, il voulait façonner l'homme nouveau.
Comme tous les jeunes chinois de l'époque, Tsai part à la campagne, il y découvre l'extrême pauvreté, lit Marx avec assiduité, une expérience qui l'éveille politiquement. Le philosophe a beaucoup écrit sur la révolution culturelle, période révolue dont l'influence perdure selon lui.
La Chine, aujourd'hui, il y a les caméras partout. On encourage les élèves, surveille leurs propres professeurs. Tout ce genre de dénonciation, c'est radicalement différent, mais il y a quand même rassemblance.
La révolution culturelle, décennie à l'héritage ambigu, un tabou souvent censuré sur les réseaux sociaux, mais pourtant central dans l'histoire du parti.
Nicolas Roca.
Au Brésil, coup dur pour Flavio Bolsonaro à 5 mois du scrutin présidentiel.
Le fils aîné de l'ex-président. Le président d'extrême droite se prépare à affronter Lula lors de l'élection qui doit avoir lieu en octobre prochain. Mais la candidature de Flavio Bolsonaro est plombée par les révélations d'un média brésilien.
ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Il est comme ça, jamais.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif.
Eh bien, on va déjà habituer nos auditeurs à ces bruits qu'ils vont entendre.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe Actif, le mix des cultures.
sentiment, un truc, tout leur matériel leur sert à se mettre sur la même longueur d'onde que les gens qui écoutent cette fréquence. Il ne reste donc plus qu'une solution, il faut diminuer le volume de votre radio. Le mieux serait de la débrancher.
Débrancher la radio? Oh nom de Dieu, mais il a perdu la tête!
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9.
Je t'en prie, je ne plaisante pas, il faut que tu éteignes ta radio!
Mais enfin, pourquoi veux-tu que je fasse ça?